franceinter.fr.
Au fil de l'histoire, Patrick Légibel. Charles Paul, un célèbre médecin légiste du XXe siècle, de Lionel Chanel. Une réalisation de Michel Sidorov.
Le travail que vous aurez à effectuer consistera principalement en la préparation des corps en vue de la procédure d'identification et de leur autopsie. Par exemple, vous devrez les déshabiller et prendre en charge leurs effets personnels qui seront ensuite confiés dans la plupart des cas aux familles des défunts.
Quoi d'autre ?
C'est le préposé qui se charge de mesurer et de peser les corps. Durant l'autopsie, on peut aussi vous demander d'effectuer des prélèvements si nécessaire et d'assurer leur conservation.
Des prélèvements d'organes ?
D'organes, oui. Cela peut être aussi du sang, de l'urine, des tissus. Dans certains cas, vous aurez même l'occasion d'assister le docteur dans sa tâche.
Très bien.
Vous avez aussi la charge de porter le cadavre à la salle d'autopsie. La salle doit être apprêtée avant chaque examen, parfaitement propre, et les instruments chirurgicaux à portée de main du médecin.
J'imagine que le nettoyage et l'entretien des autres équipements relèvent également de ma compétence.
Tout à fait. Pour en revenir au corps, vous avez la tâche de les recoudre et de les nettoyer après l'autopsie. Nous voici à la salle d'autopsie. La porte est ouverte. Tendez l'oreille.
Couleur des ongles normale. Aucune trace de lutte visible. Pas d'hématome, ni de contusion. Et tu ne présentes aucun signe de régurgitation non plus. On décèle bien une cicatrice très ancienne sur le côté de la cuisse gauche. Comment tu t'es fait ça, hein ? Peu importe finalement. Tu vas plutôt me dire comment tu es mort. Voyons ce qui t'est arrivé, mon petit.
C'est le docteur Paul qu'on entend ?
Oui.
Il n'a pas de mine.
Est-ce le corps qu'il parle ainsi ?
En effet. Il est comme ça, monsieur Paul. Il parle avec les morts.
Allez, mon petit. Dis-moi de quoi tu es mort.
L'homme qui parle avec les morts. C'est ainsi qu'était surnommé Charles Paul, le plus célèbre médecin légiste de la première moitié du XXe siècle. Ce surnom lui a été attribué en raison de la propension qu'il avait à s'adresser aux cadavres qu'il examinait. Des dizaines d'anecdotes circulaient à ce sujet. L'une d'elles, émanant d'un visiteur de l'Institut médico-légal, racontait que le docteur Paul avait un jour apostrophé un cadavre en ces termes « Bougre de bougre, vas-tu enfin me dire de quoi tu es mort ?» Né le 24 mars 1879 à Boulogne-sur-Mer, Charles Paul fut étudiant à la faculté de médecine de Lille, où il obtint son doctorat en 1901. C'est en 1905 qu'il devint médecin expert près le tribunal de la Seine. Il exerça jusqu'à sa mort en 1960. Un grand chroniqueur judiciaire, Frédéric Potcher, raconte que le docteur Paul avait l'air bonhomme et presque gourmand. Son embonpoint, son côté souriant, en dépit des abominations qu'il était amené à exposer à la barre, et surtout son humour, le rendaient en effet particulièrement sympathique. Certaines affaires dans lesquelles Charles Paul fut amené à déposer expliquent sa célébrité. Il est intervenu, par exemple, dans les procès Landru, Violette Nozière et Jacques Fesch. C'est lui également qui autopsia les corps de Jean Jaurès, de Jules Bonneau, chef de la célèbre bande qui portait son nom, du président Paul Doumer, assassiné en 1932, et de l'industriel Louis Renault. Il témoigna aussi en 1914, lors du procès d'Henriette Caillot, femme du ministre des Finances Joseph Caillot, qui avait assassiné le directeur du Figaro, Gaston Calmette.
Faites entrer le témoin. Veuillez décliner vos noms, prénoms et qualités.
Paul. Charles, médecin expert près le tribunal de la Seine, médecin du ministère de la Justice et médecin légiste de l'Université de Paris.
Docteur Paul, levez la main droite et jurez de dire la vérité.
Je le jure.
Nous vous écoutons, docteur.
Monsieur le Président, messieurs les jurés, messieurs les avocats, c'est moi qui ai eu la tâche d'effectuer l'autopsie du corps de monsieur Calmette. Il s'agissait d'un homme d'une bonne cinquantaine d'années, bien portant, j'ai relevé sur le corps, à 4 endroits, des traces de blessures par arme à feu présentant les caractéristiques de plaies par balle de fort calibre. Par fort calibre, j'entends que les plaies mesuraient entre 7 et 8 mm de diamètre. L'une d'elles était située sous le téton droit. Toutefois, cette blessure ne fut pas mortelle, non, car mon macabé présentait aussi une lésion au niveau de l'intestin. Il s'agissait d'une plaie transfixiante qui a perforé l'artère iliaque.
Transfixiante, dites-vous ?
C'est un mot sorti de mon imagination. Je suis un peu poète. C'est un terme que j'ai inventé afin d'atténuer la frayeur, ou tout du moins le malaise, que pourraient ressentir les jurés si j'employais des termes beaucoup plus précis. Transfixiant désigne une blessure qui à la fois transperce et asphyxie.
Très bien, continuez.
Comme je le faisais remarquer, la blessure à l'artère iliaque fut fatale à mon patient, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. D'après les constatations effectuées sur le cadavre, nous pouvons reconstituer la façon dont M. Calmette a, disons, passé l'arme à gauche. Mon client a d'abord reçu un projectile dans l'abdomen, qui n'a fait qu'érafler l'aorte. Ici, là où je mets le doigt sur mon ventre. Ensuite, une deuxième balle est entrée légèrement plus haut, pratiquant la blessure transfixiante dont je parlais et qui fut fatale à notre homme. À peu près là, si vous voyez bien mon doigt. Une troisième balle s'est logée plus à droite dans l'abdomen, occasionnant une blessure importante au muscle oblique interne, à cet endroit précisément. Enfin, la quatrième balle a été projetée, comme indiqué auparavant, sous le téton droit, ici. Puis, il s'est effondré sur le dos, à côté de son bureau. Voilà comment est mort M. Calmette.
À cette époque, les médecins légistes ne pouvaient pas déposer à l'aide de leurs rapports ou de leurs notes. Ils étaient en effet considérés comme des témoins ordinaires. Leur déposition était purement orale et tous n'étaient pas aptes à prendre ainsi la parole en public. Mais ce n'était pas le cas du docteur Paul, qui possédait un talent oratoire indéniable. Pierre Level, dans son livre « Tableau du palais », publié en 1929, écrit que ces dépositions sont faites avec un tel brio qu'on a toujours l'impression d'assister à une réussite et qu'on se tient à quatre pour ne pas féliciter l'accusé d'avoir si bien placé ses coups. Les interventions du docteur Paul, parfois surnommé le témoin éternel, étaient toujours très attendues par les habitués du tribunal. Il savait se faire comprendre des jurés, n'hésitant pas à employer des termes comme « nion » ou « téton » ou à créer des néologismes tels que « transfixiant ». C'est lui qui popularisa les expressions « instrument tranchant » et « instrument contondant ». Pour illustrer son propos, il n'hésitait pas non plus à se servir de son propre corps pour décrire les blessures des victimes, ni à sortir son propre couteau pour convaincre le public que sa lame pénétrera plus facilement telle partie du corps plutôt qu'une autre. Enfin, dans certaines affaires, il joua un rôle clé, comme lors du procès Landru, qui eut lieu en 1921.
Docteur, vous avez examiné les débris osseux et les dents retrouvés chez l'accusé, n'est-ce pas ?
C'est exact. Ils étaient calcinés. Malgré leur piteux état, nous avons pu déterminer que l'on avait en notre présence 3 têtes, 5 pieds et 6 mains.
C'est tout ce qu'il reste des victimes. Les corps ont donc été brûlés, c'est bien cela, docteur ?
Plus précisément, je dirais une partie des corps.
Que voulez-vous dire ?
Il est matériellement impossible que des corps humains entiers aient pu disparaître ainsi dans les flammes.
Pourtant, on n'a retrouvé nulle part de restes humains pouvant provenir de femmes disparues. En outre, tous les témoins habitant à proximité de la maison louée par l'accusé ont affirmé que de la fumée à l'odeur pestilentielle avait envahi les alentours à plusieurs reprises. Et on a découvert ces fragments humains dans la cuisinière de l'accusé.
Certes, aucun morceau de cadavre appartenant aux victimes n'a été retrouvé. Mais je maintiens que seules certaines parties de leur corps ont été livrées aux flammes. Cela prend beaucoup de temps de réduire un corps en cendres.
Pourtant, au cours de l'instruction, les enquêteurs ont fait brûler 1 gigot de 7 livres et 1 tête de mouton. Ils ont établi par cette expérience que la combustion était très bonne.
Oui, je veux bien vous croire. Pour ma part, je me suis livré également à ce genre d'expérience. J'ai brûlé quelques têtes, avec ou sans cervelle. Figurez-vous qu'une tête humaine demande près d'une heure et demie pour disparaître totalement. Juste une tête. Pour bien me faire comprendre des jurés, il faut s'imaginer que la tête d'un homme est comparable à un mur de briques avec du plâtre en dehors et du papier peint au-dedans.
Le coupable a brûlé les corps en plusieurs fois, docteur, tout simplement.
Sans doute, mais pas toutes les parties. Seuls les pieds, les mains et les têtes passaient dans la cuisinière, vraisemblablement.
Et le reste ?
Le tronc et les membres auraient mis un temps considérable à se consumer, vous n'imaginez pas. Le plus difficile, le plus long à brûler, ce sont les intestins.
Silence ! Selon vous, donc, il existerait un charnier quelque part ?
J'en suis absolument convaincu.
Le docteur Paul avait raison, car il est admis aujourd'hui par les historiens que seule une partie des cadavres fut brûlée, tandis que le reste a été inhumé dans un endroit demeuré inconnu. Le 21 août 1933, Violette Nozière empoisonne ses parents, Baptiste et Germaine. La mère n'est que blessée, mais le père, lui, décède. L'autopsie fut réalisée par Charles Paul 3 jours plus tard.
Entrez.
Docteur, le laboratoire de toxicologie a envoyé une copie du rapport concernant l'affaire Nozière. Tenez.
Voyons ça. Qu'est-ce que je vous disais ? Un empoisonnement.
Vous aviez raison.
Dans l'état où j'ai trouvé les organes, ça ne m'étonne pas. Je l'avais indiqué dans mon rapport d'autopsie, d'ailleurs. De grosses lésions gastro-intestinales, avec une forte hémorragie en nappe dans l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Il était presque certain que nous avions affaire à un empoisonnement.
Que dit le rapport ?
Entre autres, que l'examen toxicologique des viscères a révélé la présence de 40 mg de véronal.
De véronal ? C'est un barbiturique, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Avec l'analyse spectroscopique du sang qui nous apprend qu'il n'y a aucune trace d'oxyde de carbone, cela confirme l'hypothèse de l'empoisonnement.
Pardonnez-moi, je n'ai pas de connaissance en médecine, mais 40 mg, cela me semble peu, non ?
Vous avez raison. Mais cela est suffisant pour affirmer qu'il y a bien eu empoisonnement. Il faut savoir que les quantités de véronal que l'on retrouve dans les corps des personnes victimes d'empoisonnement sont toujours bien inférieures à celles qui ont été absorbées, et ce, pour deux raisons. D'abord, le véronal se dissipe dans l'organisme vivant au fur et à mesure de son action sur celui-ci. D'autre part, les traces du poison sont éliminées dans les urines, les vomissements et les déjections. Voilà pourquoi on en retrouve une faible quantité dans le corps de la victime. Et par conséquent, le simple fait de constater sa présence dans l'organisme permet de conclure à un empoisonnement. Sachez que les 40 mg résiduels retrouvés dans les viscères permettent d'estimer la quantité de véronal absorbée par la victime à environ 4 à 6 grammes, soit l'équivalent, tenez-vous bien, d'une bonne vingtaine de comprimés.
Le malheureux. Il n'avait aucune chance d'en réchapper dans ces conditions.
D'autant que j'ai noté lors de l'autopsie des lésions préexistantes au niveau des reins et du foie qui ont grandement favorisé l'action du véronal.
En tant que légiste, le docteur Paul contribua donc, dans les affaires criminelles, à accorder une place de plus en plus influente à ce que l'historien Frédéric Chauveau appelle la preuve expertale. La médecine légale n'était pas le seul domaine où il excellait. Charles Paul était aussi un gastronome averti. Il aimait en particulier satisfaire son considérable appétit dans 2 restaurants dont il était un habitué. Au Vieux Moulin, dans l'Oise, où il possédait une résidence secondaire, c'était l'auberge du Daguet, dont son ami Alain Coadou était propriétaire. À Paris, il s'agissait du restaurant La Pérouse, situé entre son appartement et le palais de justice. C'est dans cet établissement qu'un jour, le célèbre médecin légiste déjeune avec le juge Jacques Batigne.
Bonjour, monsieur.
Voyons les entrées.
En entrée, je prendrai des croquettes de fromage. C'est une préparation à base de parmesan et de gruyère, auquel on a rajouté poivre et muscade.
Je me laisserai bien tenter par la salade d'asperges. Mais la croustade de poulet me tente.
Non, oubliez la viande en entrée. Parce qu'en plat principal, permettez-moi de choisir pour vous, nous prendrons un poulet docteur. Il faut absolument que vous goûtiez à cette merveille.
Un poulet docteur ?
Un délice. C'est un poulet mijoté à l'étouffée dans du porto rouge et du jus de veau et accommodé d'estragon.
Et pourquoi ce nom ?
Devinez.
Le chef a confectionné une recette en votre honneur ?
Parfaitement.
Remarquez, un fin gastronome comme vous, ça ne m'étonne pas.
Donc, pour moi, c'est crème de cresson, croquettes de fromage, poulet docteur.
Alors, à l'entrée, je prendrai la salade d'asperges.
Elle est toute simple, avec sa petite vinaigrette et ses copeaux de parmesan, mais elle est tellement agréable au palais.
À vous voir ainsi commenter les plats, on croirait entendre le chef.
Que voulez-vous ? Je suis un bon vivant.
Un bon vivant qui passe ses journées avec les morts. Ce n'est pas paradoxal ?
Figurez-vous, au contraire, que cela me permet d'apprécier la vie pleinement. En côtoyant la mort au quotidien, on attache encore plus de prix au monde d'ici-bas.
Je vois très bien ce que vous voulez dire.
Batigne, n'oubliez pas qu'un cadavre découpé ne ment pas. Il livre toujours ce qu'il a dans le ventre. Je vous défie d'en dire autant de vos clients vivants.
Charles Paul était, à son époque, le médecin légiste par excellence. Pierre Bouchardon, qui fut président de la cour d'assises de la Seine de 1923 à 1926, affirma « Il était à lui tout seul la médecine légale, le docteur Monopole, comme on le nommait. Avocats ou magistrats, quand ils avaient une question à lui poser, s'adressaient à lui en l'appelant professeur. Et il n'était pas rare qu'on parlât de lui dans la presse quotidienne ou hebdomadaire. Ses apparitions dans les journaux pouvaient être l'objet des conversations qui se déroulaient le week-end à Vieux-Moulin, chez M. et Mme Couadou, qui avaient l'habitude d'inviter Charles Paul et sa femme.
Quelle magnifique journée!
Un dimanche splendide, en effet.
Ce mois de septembre nous offre un temps radieux. Merci encore pour ton invitation, Alain.
Je t'en prie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir lorsque vous venez à Vieux-Moulin.
Voici l'apéritif.
Vous avez pensé à ma Suze, j'espère.
Enfin, quelle question! Évidemment.
Eh bien, je lève mon verre à Charles, qui, une fois encore, fait parler de lui dans la presse. Tu sais, dès que j'ai dit à ma femme que le magazine Détective te consacrait un reportage, elle s'est ruée chez le marchand de journaux.
Bien sûr, nous ne manquons aucun des articles que la presse te dédie.
Nous avons chez nous des piles de coupures de magazines et de journaux dans lesquels on parle de toi.
Olga, tu dois être fière de ton mari.
Il y a bien longtemps que je le suis.
Notre vieux Charles en une de détective. Ça fait de l'effet quand même. Mais 73 332 autopsies par le docteur Paul. Tu en as vu défiler des Maccabées, toi?
J'ai été tellement frappée par le nombre que je me suis livrée à un rapide calcul. Cela te fait, mon cher Charles, en moyenne 6 autopsies par jour depuis que tu exerces.
Je ne vous cache pas en effet que j'ai manipulé beaucoup de cadavres. Des noyés, des suicidés, des décapités, des empoisonnés, des brûlés. Parfois, certains m'arrivent en plusieurs fois, d'autres sous forme d'ossements.
Tu ne t'ennuies jamais.
Jamais. Et pourtant... Savez-vous quel est le point commun entre toutes ces autopsies ?
Non.
Je les ai toutes pratiquées sur des morts. Je préfère, car les vivants se débattent trop.
Oh, sacré Charles ! Toujours le mot pour rire.
La période de l'occupation n'arrêta pas les activités du docteur. C'est à cette époque, d'ailleurs, qu'il eut à examiner les débris humains retrouvés dans la Seine. Ces bouts de cadavres constituèrent des éléments à charge du dossier d'accusation de la célèbre affaire Petiot. Surnommé docteur Satan, le médecin Marcel Petiot fut inculpé pour 27 assassinats. On avait découvert chez lui, rue Le Sueur, des cadavres, parfois découpés dans de la chaux vive. Le procès eut lieu en 1946. Le docteur Paul y déposa, le 26 mars, un témoignage accablant pour l'accusé.
Concernant la découverte faite rue Le Sueur, j'ai eu à examiner trois types de fragments humains. Premièrement, deux cadavres entiers, l'un masculin, l'autre féminin, tous deux sans sexe. Deuxièmement, des corps incomplets. Et troisièmement, des morceaux de pièces osseuses ou calcinées.
Que pouvez-vous nous dire sur ces restes humains, Monsieur Paul ?
Après un examen minutieux, nous avons pu déterminer que nous nous trouvions en présence de 5 hommes et de 5 femmes. L'homme le plus grand faisait 1,78 m et la femme la plus petite 1,50 m.
Avez-vous pu identifier la cause des décès ?
Malheureusement non, monsieur l'avocat général. Nous n'avons retrouvé ni balles, ni fracture du crâne, ni quoi que ce soit qui puisse nous amener à déterminer la cause des morts, ni les dates de celles-ci. La chaux vive a rendu impossible un tel travail.
Mais ces fragments humains et ces cadavres vous ont tout de même révélé des choses, n'est-ce pas ? Notamment sur la façon dont ils ont été découpés.
Je n'ai pas l'habitude de me gargariser d'hypothèses, mais je peux dire que le dépeçage fut l'œuvre d'un habitué du bistouri, connaissant parfaitement l'anatomie humaine.
Cela me rappelle quelque chose. Entre mai 1942 et janvier 1943, n'avez-vous pas été appelé à faire des constatations sur des corps repêchés dans la Seine et dépecés de la même manière ?
Tout à fait. D'ailleurs, ce fut à cette époque une véritable bouffée de débris humains. Oh. Depuis, le train-train a repris à l'Institut médico-légal 3 ou 4 cadavres par semaine.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces débris humains, docteur ?
Bien sûr. Il s'agissait de 13 cadavres dépecés en petits paquets. Je me souviens avoir déclaré au juge qui instruisait l'affaire et qui m'accompagnait, « À mon avis, c'est un médecin qui a fait ce beau travail. » Et j'ai même ajouté, « C'est curieux, on dirait un de mes élèves, car il a emprunté ma méthode. »
Dans votre rapport d'autopsie, pour expliquer la méthode de dépeçage employée par le criminel, vous avez notamment insisté sur des traces de piqûres caractéristiques. Pouvez-vous expliquer à la cour de quoi il s'agit ?
Quand on lâche le couteau pour se servir d'un autre instrument, on le plante dans le membre le plus proche. Comme une couturière fiche une aiguille dans sa pelote. Voilà pourquoi on retrouve des piqûres dans mes macabées, ainsi que dans ceux repêchés dans la Seine.
Peut-on faire un rapprochement entre ces morceaux de cadavres et se retrouver chez M. Petiot, rue Le Sueur ?
Certainement, car il présente également les traces de piqûres dont je viens de vous parler. Il est fort possible qu'elles soient du même auteur, d'autant plus que les têtes étaient scalpées, et de la même manière que celles trouvées rue Le Sueur.
Non seulement Charles Paul était une vedette dans les prétoires et dans la presse, mais il faisait aussi des apparitions dans les romans. Cet ami de Georges Simenon contribua en effet à plusieurs reprises aux enquêtes du célèbre commissaire Maigret. La première mention du célèbre légiste se trouve dans une nouvelle de 1936 intitulée « La péniche aux deux pendus ». Et ensuite, dans les autres enquêtes de Maigret, le docteur Paul apporta son aide au commissaire. Ce lien avec le roman policier, le légiste l'expérimenta d'une autre façon lorsqu'en 1957, il fit partie du jury du prix du Quai des Orfèvres, récompensant un manuscrit de polar inédit.
Ce fondant de poulet est merveilleux. Et sa sauce au pain d'épices, exquise.
Et au fait, parlez-moi du lauréat du prix du Quai des Orfèvres. Louis Thomas, je crois, c'est ça ?
Louis Thomas Servioni. Mais il utilise un pseudonyme. Vous trouverez son livre sous la signature de Louis C. Thomas.
Il est aveugle, disiez-vous ?
En effet. Il a perdu la vue il y a 10 ans. Il a alors abandonné son métier d'instituteur et a choisi d'écrire.
Choix judicieux, visiblement.
Ce n'est pas le premier livre qu'il écrit. Le prix que nous lui avons attribué constitue finalement une reconnaissance de son talent et un encouragement pour la suite.
Poison d'avril. Le titre est intrigant.
Et si je vous expose le début de l'histoire, mon cher Jacques, vous ne résisterez pas à l'envie de le lire.
Je vous écoute.
En deux mots, on retrouve une femme morte dont on ignore l'identité. L'enquête devra conduire à identifier la victime et à trouver le coupable. Et si vous voulez en savoir plus, lisez-le. C'est un régal. Comme ce poulet, d'ailleurs.
Sacré Charles. Les polars, ça vous connaît.
Avec le métier que je fais, c'est presque une obligation.
Un médecin légiste dans un jury littéraire fut-il consacré à la littérature policière? Avouez que c'est tout de même rare.
L'un des critères de sélection retenus pour le prix du Quai des Orfèvres est le réalisme. Lorsqu'un livre évoque une mort violente, comme c'est le cas dans les polars, il est naturel de le soumettre à l'examen critique d'un spécialiste du sujet. En l'occurrence, un médecin légiste.
Il n'existe pas de prix pour la littérature gastronomique, il me semble.
À ma connaissance, non. Pourquoi cette question?
Parce que je vous verrai bien dans le jury aussi.
À l'instar de la littérature, Charles Paul fut aussi dans le cinéma à la fois conseiller et personnage de fiction. Pour son film « Les Diaboliques », sorti en 1955, Henri-Georges Clouzot profita des conseils du célèbre légiste et de l'autorisation de filmer des séquences dans les locaux de l'Institut médico-légal. En 1963, André Fouché incarna le docteur Paul dans le film de Claude Chabrol, Landru. La remise de la Légion d'honneur vient consacrer une carrière qu'il mènera jusqu'à sa mort. En effet, Charles Paul s'éteint le 26 janvier 1960, 3 jours seulement après sa dernière autopsie, à l'âge de 81 ans. Selon le chroniqueur et romancier Jean-Paul Lacroix, il en avait effectué exactement 159 398.
C'était Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel. Charles Paul, un célèbre médecin légiste du XXe siècle, de Lionel Chanel. Avec Pierre Forest, Nicolas Fine, Antoine Sastre, François Sienner, Pierre-Yves Desmonceaux, Michel Derville, Guillemette Ferrier, Michel Melki, Véronique Attali, Laurent Cléry. Présentation, Stéphanie Duncan. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Cédric Chatelus, Sébastien Royer. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Michel Sidoroff. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.